Alors bonjour Régis Sautière, merci
Bonjour.
de bien vouloir répondre aux questions d'Actu SF à l'occasion des Utopiales et donc de la sortie du troisième volet d'Aquablue sur lequel vous avez travaillé
Oui.
avec Reynaud. Donc c'est le troisième volume depuis que vous avez repris la série. Alors comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que vous avez bien pris le train en marche? Est-ce que tout s'est bien rodé?
J'espère. Ça, c'est au lecteur de le dire, je dirais. Plutôt, mais pour l'instant, les retours critiques sont plutôt bons, donc ça nous conforte un peu dans l'idée que oui, on n'est pas complètement passé à côté de notre sujet. Puisqu'au départ, en fait, on s'est vraiment lancé dans l'aventure comme deux gamins, surtout comme deux lecteurs de la série. C'est Renaud aussi bien que moi, on était lecteurs tous les deux de la série de base, sachant qu'on, je crois que pour lui, c'est la même chose que pour moi, c'est-à-dire qu'on avait juste lu le premier cycle, donc les cinq premiers tomes, et puis après Étoile Blanche, le qui est suivi. Puis après, on avait un peu abandonné la série, parce que voilà, il y a tellement de choses à lire qu'on peut pas lire toutes les séries jusqu'au bout. Et puis, pour moi en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la planète Aquablue. J'aimais bien cet univers comme ça, qu'avait développé Kaito Ewatine, ce côté un peu paradisiaque, ce côté écologique. Le fait que ça soit de la science-fiction sans pour autant être sur des thématiques très technologiques, le côté un peu mélange, voilà, Tarzan, Dune, voilà, des choses comme ça. Donc ça me plaisait beaucoup, et donc on avait envie de retrouver ça, et c'est pour ça que quand on a repris la série, voilà, on a décidé de revenir tout de suite sur Aquablue, de centrer l'intrigue du cycle qu'on était en train de développer sur la planète Aquablue, et de jouer avec avec le jouet qu'on nous avait offert, quoi, donc avec les petits personnages, Nao, Rabat, Carlo, etc., et puis avec les décors qui préexistaient, tout en créant après. En développant cet univers, en ajoutant de nouveaux personnages, en ajoutant de nouveaux décors, etc.
Justement, à ce niveau-là, il y a pas mal de nouveaux personnages aussi qui apparaissent. Il y a pas mal de nouvelles intrigues aussi qui prennent place. Est-ce que c'est pas... moi, j'ai trouvé, par exemple, que c'était très foisonnant, qu'il y avait vraiment beaucoup de nouvelles intrigues, de nouvelles pistes qui arrivaient. Est-ce que c'est pas parfois un peu trop foisonnant ou difficile de cadrer tout ça, finalement?
C'est pas très simple, ouais. C'est pas très simple, mais c'était une volonté de départ. C'est-à-dire que quand j'ai proposé la série à Guy Delcourt, enfin mon projet de reprise de série à Guy Delcourt, je voulais, et c'est peut-être ce qui va se passer prochainement, qu'on scinde la série en deux, en fait. Il y a une série qui s'appelle Aquablue, et avec des cycles longs et des intrigues complexes, en fait, qui se dérouleraient sur la planète Aquablue. Et une série composée de cycles courts, de diptyques, qui s'appelle Fondation Aquablue, et qui reprend l'idée des trois diptyques qui ont déjà été faits, et avec à chaque fois, on a la Nao, Carlo, Rabat, Maurice Dupré, etc., donc ceux qui composent la fondation créée par Nao avec l'argent dont il a hérité, et qui se déplace à chaque fois sur une planète différente, ce qui permet d'explorer un univers différent, mais avec des intrigues très resserrées, très typées action, puis voilà, avec une intrigue qui est assez simple dans la mesure, en fait, où on donne les tenants aboutissants dès le départ, et puis après, voilà, il faut de l'action pour arriver à la fin de l'histoire. Mais par contre, sur les cycles longs, je voulais volontairement développer des intrigues beaucoup plus complexes, beaucoup moins manichéennes aussi. Avec des personnages en demi-teinte et donc avec l'introduction de nouveaux personnages, et puis en plus, bon, comme on a hérité de tous les personnages qui ont été développés tout au long des 11 premiers tomes, c'est vrai que ça simplifie pas les choses, parce qu'il faut à la fois faire vivre ces personnages là j'avais envie aussi de les développer leur psychologie. Je trouvais que notamment certains personnages faisaient un peu doublon dans la série, étaient trop proches psychologiquement des uns des autres, notamment Carlo Rabat, qui était à mon avis un peu superposable. Donc ça entraîne en fait plein de sous-intrigues, plein de dialogues aussi entre les personnages pour mieux cerner leur personnalité. Ça entraîne, voilà, aussi des choses qui vont permettre de les faire évoluer au niveau de leur psychologie notamment. Et tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'espace, et en bande dessinée franco-belge, on est limité à chaque fois à 46 pages, et ça va à 46 pages, c'est très très court, en fait, quand on veut développer ce genre d'intrigue. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de multiplier aussi les albums, et que parfois on peut avoir l'impression qui a un côté assez lent en fait dans l'avance de l'intrigue notamment.
C'est effectivement peut-être sur un certain côté, mais de l'autre ça permet justement de développer les personnages, de les approfondir, de
Oui, tout à fait. Ouais.
On sent bien que c'est on sent qu'on est parti pour une longue aventure.
Pour une longue aventure. Au départ, j'avais prévu 5 tomes pour ce cycle-là. Et puis là, je me suis rendu compte en écrivant le tome 3 que déjà ce que je voulais mettre dans le tome 3, c'était impossible à faire tenir en 46 pages. Et donc, c'est pour ça que l'histoire du Standard Island va se développer sur 2 tomes au lieu d'un seul. Et donc, voilà, au lieu de 5 tomes, on est parti plutôt sur 6, voire peut-être même sur 7, parce qu'il y a tellement de sous-intrigues aussi, puis de personnages qui apparaissent et qu'il faut faire vivre aussi. C'est possible qu'on déborde encore sur un tome de plus. Mais c'est vrai, c'est pas encore défini. Pour l'instant, voilà, on est calé sur 6.
Et nous, est-ce que ça dépendra justement du développement du cycle court, justement ? Est-ce qu'il y aura des choses développées ?
Il y aura des interactions, mais ce qui est prévu, en fait, c'est que les diptyques se passent pendant l'intervalle de temps qu'il y a entre le premier cycle et le deuxième cycle.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a volontairement laissé 15 ans entre les deux, où on a un Nao sur le premier cycle, voilà, qui est très jeune, qui a 18 ans à peu près, qui est très impulsif, qui a un côté naïf aussi, un côté grand gamin, quoi. Et là, on a un Nao qui est un peu plus adulte sur le cycle qu'on développe, qui a un côté plus mûr, plus consensuel aussi. Ce que lui reproche parfois Carlo, qui préfère parfois le Nao du début, voilà, qui avait un côté impulsif, mais voilà, qui allait directement dans l'action, qui se laissait pas faire. Et donc entre les deux, voilà, il y a un laps d'une quinzaine d'années à peu près. Et donc c'est pendant ces 15 ans que vont se dérouler les histoires racontées dans les diptyques. Donc il y aura quelques interactions avec le cycle qu'on est en train de développer, mais l'un ne va pas dépendre de l'autre non plus. Quoi.
D'accord.
Mon projet c'est de, alors les diptyques en fait je serai pas le seul à les développer. On sera sans doute plusieurs scénaristes. L'idée c'est un peu de faire comme ce qui s'est fait sur 13 avec les 13 Mysteries, ou sur Spirou avec les Spirou hors collection, de confier la série entre guillemets à d'autres auteurs, voilà, pour qu'ils puissent apporter aussi leurs pattes, s'amuser un peu avec la série, avec évidemment certaines contraintes, parce qu'il faut pas qu'il y ait des...
Ça devienne autre chose et qu'il y ait des...
Oui, puis qu'il y ait trop d'interactions avec le cycle principal. Mais non, dans mon projet, en fait, c'est aussi d'utiliser ces diptyques-là pour amener les prémices de ce que va être en fait le cycle long suivant d'Aqua Blue. Donc poser certains jalons en fait qui vont permettre d'amener aussi les cycles longs futurs. Quoi.
D'accord. Donc du coup, justement, donc en revenant sur Nao, c'est un personnage qui a gagné beaucoup en maturité. On voit qu'il s'est passé quand même du temps et que c'est un adulte maintenant. Donc, est-ce que c'est le personnage que vous avez fait le plus, enfin, vous pensez avoir fait le plus évoluer par rapport à d'autres?
En tout cas, c'est celui qui va le plus évoluer. Bon, déjà parce que c'est le personnage central de la série, et aussi parce que il avait déjà évolué en fait sur les cycles précédents, mais dans une direction qui me plaisait pas forcément. C'est-à-dire que du Nao très sympathique du départ, très voilà, qui a un côté oui, c'est ça, un côté un peu Tarzan, un peu à la fois un peu bon sauvage et puis aventurier. Il a évolué vers une espèce de super-héros avec voilà des muscles très prononcés, avec un côté Golden Boy aussi. Enfin voilà, il a hérité d'une grosse fortune. Je trouvais que ça faisait un peu too much. Et puis alors sur le tome 11 où là voilà on se rend compte qu'il n'hésite pas à tromper minuit à qui il vient de faire un enfant. Il prend un côté quasiment James Bond. Et je trouvais que du coup, il y avait vraiment un décalage entre la personnalité de ce Nao-là et puis le Nao des débuts. Et donc j'avais envie de revenir un peu au Nao des débuts, mais avec un Nao qui aurait quand même évolué intellectuellement, psychologiquement, qui soit devenu plus mûr. Et donc c'est vers ce Nao-là qu'on se dirige, quoi. Et pour ça, on va passer par tout un tas d'étapes. Il y en a une déjà qui apparaît à la fin du tome 3 là, de Standard Island. C'est-à-dire qu'il va vivre des choses qui vont être très dures, qui vont être très difficiles et qui vont l'amener aussi à changer, à réfléchir sur lui-même et à beaucoup évoluer psychologiquement. Et notamment de par ses rapports aussi avec Minuit, avec son fils, qui vont énormément évoluer, qui vont l'amener voilà à quelques qui ont amené quelques bouleversements en fait dans la petite famille.
Et qu'on a hâte de découvrir. Et en revenant sur Aqua Blue, donc la planète, est-ce que c'est aussi un personnage finalement quelque part dans...
Ah oui, complètement, ouais. Ouais. C'est un personnage pas forcément. Pas forcément un personnage vivant comme peut l'être la planète d'Avatar. Mm-hmm. Mais voilà, mais on n'en est pas loin non plus. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi un élément central. De toute façon, c'est la planète qui a donné son nom à la série, c'est pas mm-hmm. Nao. Au grand regret de Guy Delcourt parfois, qui estime que c'est mieux d'avoir le nom du personnage central en titre de série. Mais je trouve intéressant justement d'avoir ce côté-là et d'utiliser la planète, de montrer en fait que ce qu'on en a vu pour l'instant, c'est vraiment la surface immergée de l'iceberg. J'ai envie vraiment d'aller plus loin en fait dans la découverte de la planète, de montrer d'autres peuplades, de montrer d'autres territoires que ceux qu'on a vus pour l'instant, mm-hmm. D'aller explorer aussi un peu les profondeurs, de montrer que pour l'instant on connaît très très peu de choses de la planète Aqua Blue.
Donc il reste encore beaucoup de choses à découvrir, ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Et justement au niveau de la représentation, comment ça se passe avec Renault à ce niveau-là, au niveau du... Est-ce qu'il lui donne des instructions pour comment...
En fait, il y a deux choses. Oui, alors quand j'ai des idées de décors particuliers, mm-hmm. alors je pense par exemple sur le tome 13, donc le tome 2 du nouveau cycle, il y a un moment le Stromboli qui fait des slaloms entre des grands pics en fait rocheux mm-hmm. Au-dessus de l'eau. Ça en fait voilà, c'est des photos que j'ai envoyées à Renault. Il y avait d'un seul pic rocheux et je lui dis tiens voilà, ce sera un endroit, une espèce d'archipel mm-hmm. de pics rocheux comme ça où ils vont faire du slalom. Donc là j'avais une idée très précise du décor et dans ce cas là quand je trouve des photos ou éventuellement je peux faire un dessin, mais avec Renaud je crois que ça va encore jamais arriver parce qu'il a un niveau tellement élevé que j'aurais un peu honte de lui envoyer quoi que ce soit dessiné de ma main. Mais voilà, quand j'ai des photos qui me permettent de bien montrer ce que j'ai en tête, je lui envoie ça. Et sinon, après, je lui donne des indications et puis je le laisse faire. Et, et je le laisse assez libre. Alors, pour tout ce qui est design de vaisseaux spatiaux, etc., ça, je le laisse complètement libre. Je lui donne juste des indications sur la fonction utilitaire en fait du vaisseau, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a, voilà, est-ce que c'est un cargo, est-ce que c'est un vaisseau de chasse, est-ce que c'est voilà, et à partir de là il est libre de faire ce qu'il veut, et donc généralement il me montre un peu voilà ce qu'il a en tête et en règle générale ça colle tout à fait. Et je fais ça notamment parce que je sais que c'est son grand plaisir, mm-hmm. voilà, inventer des vaisseaux, y compris le Standard Island, donc là qui n'est pas un vaisseau spatial, mais qu'on voit dans le tome 3 du nouveau cycle. Mm-hmm. Voilà, je l'ai laissé plus ou moins libre de faire ce qu'il voulait. Voilà, je lui avais décrit, voilà, il nous faut un paquebot géant, je lui avais dit voilà, ce qu'il nous fallait comme volume, enfin comme envergure du, mm-hmm. du vaisseau, ce qu'on allait trouver dessus, etc. Mais après, il pouvait en faire... C'était libre à lui d'imaginer la forme que pouvait prendre ce vaisseau.
Et on a le résultat qui est celui donc, du volume 3.
Voilà.
Et donc on va retrouver sans doute ce navire.
Au moins jusqu'au tome suivant. Après, je ne vais pas vous dire ce qu'il va advenir mais de tout ça. Mais oui, on l'a au moins sur le tome suivant, puisque voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que mm-hmm. voilà, l'histoire du Standard Island qui était prévue sur un tome, on l'a développé sur deux.
De façon à pouvoir ne pas laisser trop de zones d'ombre pour la suite. Et les projets, donc il y a la suite d'Aqua Blue forcément, et ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours?
Là, on est en train de commencer à essayer de développer le côté fondation Aqua Blue. Mm-hmm. Bon, pour l'instant, il n'y a encore rien de démarrer à proprement parler. Ben, on est en train de faire des tests avec des dessinateurs. Moi, j'ai écrit une première histoire. Il y a d'autres scénaristes qui sont pressentis pour en mm-hmm. écrire d'autres. Voilà, donc tout ça, c'est en train de balbutier, mais c'est sur les rails. Après, moi, dans mes projets personnels en dehors d'Aqua Blue, il y a dans les prochains qui arrivent, il y a le tome 2 de la guerre des Lulus, donc qui arrive en janvier. Mm-hmm. Il y aura, donc ça c'est chez Casterman, et il y aura aussi en janvier le premier tome d'un diptyque que je fais avec Philippe Berthet, qui s'appellera Péricot. Donc là, qui se passe à. Alors ça commence à Cuba en 1958, et après, voilà, l'aventure se déroule sur tout le sud des États-Unis, en fait. Donc ça va être un voyage de Cuba jusqu'à Los Angeles. Et le tome 2 sortira dans l'année, sans doute en septembre, puisque là on est en train de le faire. Moi j'ai découpé la moitié, Philippe doit en être aux deux tiers déjà, enfin aux deux tiers de la moitié. À part ça, y a la suite de Femmes en résistance aussi. Donc là, au niveau du scénario, on a terminé le tome 3. Donc là, les dessinateurs du tome 2 et 3 sont en train de boucler ces tomes-là. Et le quatrième tome sortira dans un an à peu près. Il y a aussi chez. Donc là, ce sera chez Glénat, avec Antonio Lapone, un album qui s'appellera Adam Clarks. Où là, on est dans une histoire de rétro-futur, en fait, qui se passe en l'an 2000, mais tel qu'on l'imaginait dans les années 50. Avec un personnage qui est un mixte entre Arsène Lupin, James Bond, et avec un design très de style Atome. Quoi. Et ça doit sortir, je ne sais pas trop quand, premier semestre de 2014.
D'accord.
Voilà, il y a d'autres choses sûrement, mais. Avec David de François aussi, je suis en train de travailler sur un. Avec qui j'avais fait deux briquets de sang, on est en train de travailler sur un diptyque. Qui pour l'instant s'appelle Un homme de joie. Je ne sais pas si on gardera le titre, mais parce que c'était un titre temporaire, mais en fait, on a fini par s'y habituer. Et qui raconte l'histoire d'un émigré ukrainien dans le New York des années 30. Mais avec une histoire qui est très particulière. Enfin, je ne vais pas en dire plus, mais je pense que la fin du premier tome sera assez surprenante. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour.
Ça fait beaucoup de voyages en perspective pour les lecteurs aussi, hein, effectivement.
Ah, puis si, juste une dernière chose. Là. Je suis en train de commencer à travailler avec Renaud Dilly sur un nouveau diptyque. Donc, on avait fait Abélard ensemble. Et là, on fait un nouveau diptyque dans la même veine où on reprend le personnage de Gaston. Je viens juste de boucler là, les séquenciers des deux tomes. Donc là, je vais commencer le découpage et Renaud va commencer le dessin. Il a fait les premières études de personnages. Et voilà. Et donc là, c'est une histoire pareille de Gaston qui était l'un des personnages d'Abélard, et ça va être à nouveau un voyage, mais une traversée des États-Unis du nord au sud, en fait, de New York jusqu'à la Nouvelle-Orléans.
D'accord. Et au plaisir de découvrir tout ça, de voyager encore longtemps dans ta compagnie. Merci encore d'avoir répondu à toutes ces questions.
Merci de me les avoir posées.
Et puis à très bientôt.
À bientôt.
Merci.